Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. 15 femmes tchèques ont été accusées de soutien au mouvement néo-nazi. Quelques 300 personnalités tchèques appellent le Premier ministre Petr Nečas à signer le pacte budgétaire européen. Ouverture mardi à Verdun d'une grande exposition consacrée au général Pelé. Les policiers de l'unité de lutte contre le crime organisé ont accusé 15 femmes de soutien et de propagation de l'idéologie du mouvement néo-nazi Resistance Women Unity. L'information a été communiquée par le porte-parole de cette unité spéciale, Pavel Hantak. D'après la police, ce mouvement serait une branche féminine d'une formation d'extrémistes appelée la Résistance Nationale. Les femmes inculpées sont âgées de 21 à 32 ans. Depuis 2007, elles ont participé à l'organisation de plusieurs rassemblements d'extrême droite. Elle risque une peine allant jusqu'à 8 ans de prison. Plus de 300 personnalités tchèques ont appelé sous forme de pétition le Premier ministre Petr Nečas à signer le pacte budgétaire européen. Parmi les signataires de la pétition, on trouve le président du Parti social-démocrate, premier parti de l'opposition, Bohuslav Sobotka, le prêtre Tomáš Halík, le cardinal Miloslav Vlk, l'ancienne présidente de l'Académie des sciences, Helena Ilnerová, ou encore la présidente du comité tchèque d'Helsinki, Anna Šabatová. Lors du sommet extraordinaire tenu fin janvier à Bruxelles, Petr Nečas a décidé de ne pas se rallier à l'union fiscale comme 25 autres pays membres et de se tenir ainsi en marge de l'intégration européenne aux côtés de la Grande-Bretagne. Cette décision a ensuite été vivement critiquée par le chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg. C'est mardi à 10h que s'ouvrira une grande exposition au mémorial de Verdun consacrée au général Pelé, chef de la mission militaire française en Tchécoslovaquie dans l'entre-deux-guerres. Le général Pelé est une figure historique mais méconnue en France surtout. L'occasion de jeter la lumière sur cet homme qui fut un chef militaire brillant aux côtés du général Joffre durant la Première Guerre mondiale, mais aussi un diplomate reconnu et encore célébré au-delà des frontières françaises, en particulier en pays tchèque, pour son rôle éminent lors de la création de l'armée tchécoslovaque il y a 90 ans. L'exposition dont l'ombre de Joffre, le général Pelé, s'achèvera le 3 septembre prochain. À l'initiative de l'UNESCO, la date du 13 février était retenue comme la journée de célébration mondiale de la radio. Cette journée marque la date de lancement de la radio des Nations Unies en 1946. L'idée initiale est venue de l'Académie espagnole de la radio. Dans un monde traversé par de profonds changements, la radio demeure un miracle aussi merveilleux qu'à ses débuts. L'UNESCO s'emploie à soutenir la radio comme instrument de paix, a déclaré dans son message la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. La radio publique tchèque s'associe à l'événement en diffusant des émissions spéciales. Avec une couverture pouvant atteindre 95% de la population mondiale, la radio serait, selon l'ONU, le média le plus universel qui existe. Côté météo, après une vague de froid qui a touché le pays ces dernières semaines, un redoux est attendu dans les prochains jours. Mardi, jour de la Saint-Valentin, le ciel en République tchèque sera couvert avec des chutes de neige sur la majeure partie du territoire. Les températures seront comprises entre moins 8 et 0 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite de l'émission avec Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Prague, une émission que nous diffusons alors que ce lundi est la journée mondiale de la radio. On reviendra en premier lieu sur le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg qui a donné raison à un ressortissant autrichien vis-à-vis des autorités tchèques. Les détails dans quelques minutes avant d'évoquer un documentaire retraçant l'histoire d'une voie ferrée construite sous Staline en Sibérie et qui ne fut jamais utilisée. Un documentaire tchèque retrace en effet cette histoire. Tout ceci ce sera avant le sport où nous parlerons équitation. Bonne écoute de ce programme. La Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a donné raison à František Oldřich Kinský, ressortissant autrichien, qui avait porté plainte contre la justice tchèque. Le plaignant estime ne pas avoir bénéficié en République tchèque d'un procès équitable et accuse le gouvernement et le législateur tchèque de ne pas avoir respecté un certain nombre de règles dans la procédure judiciaire qui les opposait. Un sujet de Paul Bauer, présenté par Magdalena Hrozinková.
L'affaire de František Oldřich Kinský fait partie des labyrinthes des restitutions des biens confisqués par les différents régimes qui ont jalonné le XXe siècle en Tchécoslovaquie et en République tchèque. On se souvient que František Oldřich Kinský avait entamé en 2001 des poursuites judiciaires auprès de la Cour de justice tchèque en vue d'obtenir la restitution des biens qui avaient été confisqués en 1945 à la branche de la famille Kinský à laquelle il est rattaché. La confiscation des biens en 1945 avait été ordonnée dans le cadre des décrets Beneš et touchait les Tchécoslovaques de nationalité allemande ainsi que les collaborateurs avec le régime nazi. Contrairement aux confiscations réalisées à la suite de la prise du pouvoir par les communistes en 1948, les biens confisqués en 1945 ne font pas l'objet d'une procédure de restitution par l'État. Pourtant, ce descendant d'une branche de l'une des familles de l'ancienne noblesse de Bohême a déposé plus de 150 actions au civil afin d'obtenir des restitutions de biens évalués à quelque 40 milliards de couronnes, environ 1,6 milliard d'euros. Les membres d'autres branches des Kinský restés fidèles à l'État tchécoslovaque durant le conflit mondial avaient été rétablis dans leurs droits. Avant sa mort en 2009, František Oldřich Kinský estimait avoir été dessaisi injustement de biens hérités, non pas de ses parents qui avaient collaboré avec le régime nazi, mais de ses grands-parents morts avant la création de la Tchécoslovaquie en 1918. Or, durant le procès, la République tchèque a fait savoir que l'État tchécoslovaque avait abrogé en 1924 la loi encadrant la transmission du patrimoine aux petits-enfants. František Oldřich Kinský, né en 1936, ne pouvait donc pas en être bénéficiaire. Toutefois, ce dernier avait déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de la République tchèque. Le verdict rendu public jeudi dernier donne en partie gain de cause aux plaignants. Car si la Cour de Strasbourg n'intervient pas sur la décision de justice rendue par le tribunal tchèque dans l'affaire Kinský, elle condamne toutefois les pressions de l'État tchèque lors des années de procédure judiciaire. C'est ce que rappelle le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil.
Le problème dans le cas de M. Kinský, du moins d'après les informations dont je dispose, ne touche pas le fonctionnement de la justice du pays, mais concerne certains fonctionnaires, plus précisément des hommes politiques à une époque où la social-démocratie était au pouvoir. Leurs représentants ont fait un certain nombre de déclarations qui ont influencé l'affaire Kinský. Ils ont par exemple incriminé le fait qu'il obtienne restitution des biens confisqués. Pour la Cour des droits de l'homme, les déclarations politiques ont pu avoir une influence sur le respect des droits de M. Kinský, notamment le droit à un procès équitable.
La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la République tchèque à verser aux descendants de František Oldřich Kinský des dédommagements moraux de 10 000 euros, ainsi que des dédommagements sur les frais du procès de 3 380 euros. L'État tchèque peut néanmoins révoquer dans les 3 mois cette décision sans précédent dans l'histoire du pays.
Mrtva trať, ou La voie morte, est un film documentaire du jeune réalisateur Shimon Spidla qui part à la découverte d'un chemin de fer en Sibérie voulu par Staline et construit à la sueur des prisonniers du Goulag. Il était présenté récemment en première à Prague et dans le cadre du festival de documentaires de Rotterdam. Cercle arctique nord, aux confins de la Sibérie, c'est là, sur cette terre hostile, que se trouvent les restes d'une voie de chemin de fer abandonnée, commencée sous le règne de Staline. C'est également sur les traces de cette voie ferrée, défi humain et illustration de l'absurdité totalitaire, que se sont rendus les membres d'une expédition tchèque en 2009, puis en 2011. Le réalisateur Šimon Špidla en a fait un film, mi-documentaire, mi-poétique, mais assez difficile d'appréhension. Caméraman du film, Lukáš Hyksa détaille l'histoire de cette voie ferrée hors du commun, dont les premiers travaux remontent à 1947.
La construction a été commencée sous le régime de Staline. Malgré les avis des constructeurs et des architectes qui déconseillaient la construction d'un chemin de fer dans un terrain qui n'est pas du tout stable, où les conditions climatiques sont aussi extrêmes que... Il est impossible de construire en fait quelque chose qui pourrait survivre. Le chantier a existé jusqu'à la mort de Staline et un mois après que Staline est mort, le chantier a été arrêté.
La région est impropre à ce type de projet pharaonique. D'ailleurs, la voie ne sera jamais mise en service. Elle est construite sur du permafrost, un terrain au sous-sol gelé en permanence et auquel l'été, les marées rendent l'accès quasi inaccessible. Les membres de l'expédition tchèque de 2009 ont de la chance, l'été est étonnamment sec, mais tout comme les ouvriers autrefois, tous prisonniers du goulag, ils souffrent de l'omniprésence des moustiques et de moucherons. Lukas Hiksa évoque ces prisonniers chargés de construire la voie.
C'était des prisonniers politiques qui ont été transférés de toute la Russie. Ceux qui ont survécu ont resté dans la région, plus ou moins. Ils étaient en isolation, où ils ne pouvaient pas rentrer à Moscou ou à Pétersbourg. Une grande partie de ces prisonniers, c'était une élite artistique. Ils organisaient des spectacles de théâtre, des concerts. Nous avons retrouvé par exemple une salle de cinéma. Enfin, détruite, des restes d'une salle de cinéma. D'après le témoignage d'un garde de ce goulag qui était chargé de culture, d'événements culturels dans le goulag, ils apprenaient beaucoup de ces gens-là qui venaient, parce que c'était vraiment des acteurs, des écrivains, qui ont été bien sûr tous mélangés avec des criminels, ce qui était le principe de goulag.
Le film de Shimon Spidla retrace de manière atypique l'histoire de ces prisonniers et de cette voie ferrée morte. Des plans longs et une bande-son lancinante que seules des incrustations expliquant le jargon du goulag nécessaire à la survie des prisonniers viennent interrompre. La forme a de quoi dérouter le spectateur. Shimon Spidla s'explique sur ce style méditatif.
Quand on doit représenter quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, ce qui est le cas ici, puisqu'on parle des années 1940-1950, on ne peut pas le filmer puisque ça s'est déroulé. J'ai donc choisi de privilégier l'imagination. Le récit et les témoignages se déroulent en arrière-plan de la longue traversée, le long du fleuve Yenisseï. C'est la raison de ce tempo lent. Ensuite, une grande partie du film est tournée sur le fleuve, parce que cela donne la mesure de l'éloignement du goulag et de la voie ferrée. Nous avons mis 4 jours pour y arriver. À l'époque, les prisonniers avaient mis 2 semaines. Cet éloignement montre déjà le côté absolu de l'emprisonnement. Si on arrivait au bout du voyage, en vie de surcroît, on savait qu'on ne s'en sortirait pas autrement que par une voie officielle.
Lukas Hiksa, le caméraman, évoque lui aussi la forme du film.
Moi, je dirais que c'est un film, c'est de la poésie en images. C'est le style de Shimon qui travaille de cette manière-là. Il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à voir un film qui apportera beaucoup d'informations sur ce chemin de fer perdu dans la Sibérie. Mais moi, je dirais que c'est plutôt un film, c'est un point de vue d'un voyageur qui s'est fait transporter dans un camp dans cette zone-là.
Le film Mrtva Trať, La Voix Morte, sera très bientôt en compétition dans le cadre du festival du film documentaire de Wiesbaden. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de notre émission. Directeur général adjoint de l'Institut français du cheval et de l'équitation et directeur de l'École nationale d'équitation de Saumur, Robert Dartois, était de passage à Prague fin janvier. L'Institut français de Prague avait en effet organisé une conférence intitulée « De la théorie à la pratique cheval », durant laquelle sont intervenus Nadège Bourdon et Sophie Biot, respectivement écuyers du très prestigieux Cadre Noir et responsable du service recherche de l'École nationale d'équitation. Avant cette conférence, Robert Dartois a expliqué au micro de Radio Prague les raisons de cette visite en République tchèque. Voici l'intégralité de l'entretien réalisé par Guillaume Narguet avec Robert Dartois.
Sport en République tchèque.
Nous avons quelques jeunes tchèques qui sont venus à l'école, qui sont venus travailler sur plusieurs mois, sur des formations que nous faisons. Et on a senti fortement qu'ils voulaient faire connaître à leurs compatriotes ce qu'était le Cadre Noir, l'École nationale d'équitation. Et donc est née une première collaboration, puisque Nadège Bourdon, qui est écuyer du cadre, un écuyer féminin du cadre, vient de passer 2 jours à quelques 150 km de Prague pour faire une séance de formation et faire mieux connaître le travail qu'on fait sur le plat et à l'obstacle.
Cela veut-il dire qu'on peut envisager une collaboration approfondie entre notre centre et la République tchèque, et dans quel domaine plus précisément?
Alors, nous, si on nous sollicite, et surtout avec des pays de l'espace européen, si on nous sollicite, on essaie de répondre présent en fonction de nos plans de charge et autres. Bon, ça a été l'exemple là, mais ou la Fédération tchèque d'équitation ou d'autres structures nous demandent des interventions, dans la mesure de notre possible, on peut le faire, oui.
Et concrètement?
Concrètement, ça peut être ce qui a été fait là ce week-end, ça peut être aussi des choses d'une plus grande ampleur, avec des conventions de partenariat assez étoffées comme on l'a avec d'autres pays de l'Europe centrale.
Alors justement, vous avez organisé il y a quelque temps un spectacle gala en Hongrie. Là aussi, il y a une certaine forme de collaboration qui fonctionne déjà. Est-ce que la Hongrie constitue pour vous une source d'inspiration par rapport à Prague?
Alors, on va pas copier. Effectivement, on est allé en gala à Budapest en octobre 2008. Depuis, on a étoffé les relations avec l'Académie équestre de Kaposvár, où on a presque tous les ans maintenant, on a des écuyers qui vont participer à des formations ou participer à des jurys d'examen. Mais il ne faut pas faire toujours de l'analogie. Je veux dire, je pense que si on nous demande des interventions, si on nous demande de préparer des relations de partenariat, il faudra le faire à partir d'une analyse du vécu ici, et puis de la demande des gens, et de savoir comment on peut y répondre. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Effectivement, on n'a jamais de schéma préétabli qu'on essaierait de plaquer sur la réalité. On essaie plutôt de s'adapter, de répondre aux demandes des gens qui souhaitent travailler avec nous.
Savez-vous déjà quelque chose ici de l'équitation en République tchèque?
Très peu, parce que mon déplacement a été un peu, je dis pas impromptu, mais je me suis greffé sur cette formation qui a été mise en place et cette conférence, parce que j'ai le sentiment qu'on aura sans doute un certain nombre de choses à faire ensemble, que ce soit avec la fédération, soit avec d'autres intervenants.
Vous avez évoqué cette conférence, quels seront les thèmes abordés au cours de celle-ci? C'est une conférence qui, il faut le dire, rencontre un grand succès, puisque toutes les places sont réservées depuis déjà plusieurs semaines.
Ben écoutez, tant mieux, c'est merveilleux. Je suis content pour les deux intervenantes. Donc il y a Nadège Bourdon qui est écuyer du cadre, et puis il y a Sophie Biot qui est la responsable de la recherche à l'école. Elles vont nous témoigner l'une comme l'autre d'un certain nombre de travaux qu'elles ont fait et de leur manière de travailler. C'est déjà une première chose. Je pense que si on nous le demande, on reviendra pour faire d'autres choses. On est allé voir tout à l'heure l'Arena O2. C'est une très belle salle de spectacle. Si on arrivait à faire mûrir un projet de déplacement du cadre ici, on essaiera de le mener à bien, mais pour l'instant, on n'a fait que regarder la salle.
Alors cette salle a été, c'est une salle ultra moderne, grande, de 17 000 places, qui a été construite en 2004 et qui est prévue pour accueillir tout type de spectacles. Est-ce que ces paramètres correspondent à ce dont vous avez besoin pour l'organisation de votre show?
Ça correspond largement à la majeure partie de nos besoins.
Comment se présentent vos spectacles? Alors, par exemple, pour Budapest ou pour ce que vous pourriez faire à Prague, quels sont
notre mission, c'est de faire mieux connaître ce qu'est la spécificité de l'équitation à la française. Donc, nos galas sont construits d'une certaine manière qu'on veut un peu didactique, c'est-à-dire au début, on explique beaucoup de choses aux gens pour qu'ils aient les clés de lecture de ce qu'ils vont voir.
Concrètement, comment ça se passe?
Ben, on fait une démonstration d'un écuyer seul, fait une démonstration de toutes les figures de l'équitation académique avec un commentateur qui explique pourquoi et comment on fait ce type de mouvement. Parce qu'après ces mouvements, on va les retrouver dans des ensembles plus grands. Et de la même manière pour ce qu'on appelle les sauteurs, c'est-à-dire ceux qui font les différents sauts d'école, que sont la croupade, la courbette et la cabriole. On explique comment ça fonctionne, de manière à ce qu'au moment où ça se fait, après dans l'ensemble, le spectateur puisse voir. Donc l'intérêt, la manière dont on a construit nos spectacles, c'est qu'ils soient lisibles à tout niveau de compétence du cheval. On peut être particulièrement technicien et apprécié, mais on peut être aussi quelqu'un qui simplement a envie de voir quelque chose qui est beau et arriver à le déguster parce qu'on aura donné auparavant un certain nombre de clés pour pouvoir le lire.
Alors, vous avez dit que les paramètres techniques de la salle correspondaient à ce dont vous aviez besoin. Quels sont les autres éléments qui sont maintenant nécessaires pour arriver au terme du projet, pour que ce projet aboutisse et que le public pragois puisse profiter donc du spectacle du Cadre Noir?
Alors, il n'y a pas de projet sans porteur de projet, déjà. Donc, il faut un porteur de projet, et puis après, il faut analyser quel type de public ça peut concerner, quel nombre de public ça peut concerner, parce que c'est quand même une entreprise qui est relativement lourde, parce qu'on vient avec une trentaine de chevaux, une vingtaine d'écuyers, les soigneurs, etc. Donc, c'est quand même un déplacement relativement lourd. Je vous signale qu'il y a, entre Saumur et Prague, il y a 1400 km. Ça veut dire une étape, parce que les chevaux ne doivent pas voyager plus longtemps que 8-9 heures. Autrement, ça les stresse trop et ça les fatigue trop. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses après qui sont à la fois de la logistique et puis de l'organisationnel et des paramètres financiers qu'on ne peut pas négliger à mettre en route. Mais il faut déjà qu'il y ait un porteur de projet aussi.
Qui dit spectacle, en tout cas pour l'équitation, dit aussi musique. Peut-on envisager, par exemple, lors de la préparation, lors de la mise en place d'un tel spectacle, d'avoir également, par exemple, de la musique tchèque ou comment est-ce que cela se passe?
On essaie. Vous savez, les chevaux ont trois allures, le pas, le trot, le galop. On essaie de trouver des musiques dont les tempi correspondent à ces allures-là. Et il y a quand même dans la musique tchèque un certain nombre de choses qui sont à mon avis utilisables, et on essaie toujours d'adapter ce que l'on fait au pays dans lequel on se trouve.
Ouais. Est-ce que cela veut dire que vous avez déjà un peu réfléchi, pensé à ce spectacle éventuel à Prague?
Pas encore. Nous sommes à l'esquisse de ce qui pourrait être un spectacle à un moment ou l'autre.
Chaque spectacle est-il différent donc par rapport au lieu?
Il y a une espèce de tronc commun, comme je vous disais, parce que c'est pas simplement des gammes, quoi. C'est vraiment l'expression de cette pratique équestre. C'est la première chose. Et après, on s'adapte au lieu. Quand on travaille en plein air, c'est différent. Quand on travaille, suivant l'orchestre avec lequel on travaille, quand il y a un orchestre aussi, c'est différent. Donc, on s'adapte à tout ça.
Vous avez évoqué donc la conférence, la visite de l'O2 Arena ou O2 Arena, comme vous avez si bien dit. Y a-t-il encore d'autres aspects de votre passage ici à Prague?
Alors pour le moment non, mais j'ai le sentiment que le travail qu'a fait Nadège Bourdon ce week-end a plu beaucoup, donc je pense qu'il n'est pas exclu qu'on revienne pour des choses comme ça. Et puis si on arrive à finaliser, aller plus loin dans cette esquisse d'un déplacement du cadre, on sera appelé à revenir pour vraiment tout mener à bien.
Peut-on malgré tout déjà évoquer une date?
2012, c'est bloqué, on a tout notre carnet de balles est pris. De toute façon, c'est des choses qui se montent, surtout quand on est à l'étranger, ça se monte vraiment assez longtemps à l'avance, et c'est des choses qu'il ne faut pas faire dans la précipitation.
Voilà, c'est donc avec Robert Dartois, directeur de l'École nationale d'équitation de Saumur, que s'achèvent ces émissions en français de Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sous forme d'articles, en podcast ou bien encore en streaming sur notre site internet. Vous le connaissez, le www.radio.cz/fr. Je vous rappelle encore une fois que l'UNESCO a fait de ce 13 janvier la journée mondiale de la radio. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.